l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
L'ours et la carotte vous emmène cette semaine à la rencontre de Jean-François Julliard. Jean-François Julliard, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est le directeur général de Greenpeace. C'est donc un interlocuteur de choix pour en savoir plus sur cette ONG que l'on connaît tous sans vraiment la connaître. Une ONG sans concession, ça on le sait, sans financement public ni financement d'entreprise, ça on le sait parfois moins. Son histoire, ses méthodes, ses combats actuels, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Greenpeace, c'est tout de suite dans l'ours et la carotte. Alors, bonne écoute à tous. En préambule, parce que tout le monde connaît Greenpeace et personne ne sait, tout le monde a son avis sur Greenpeace, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Alors je voulais vous poser comme première question, Greenpeace c'est quoi ?
En fait, Greenpeace, c'est une organisation internationale et indépendante qui agit pour la protection de l'environnement. International parce qu'on est présent aujourd'hui dans une quarantaine de pays, un peu partout sur la planète. Et protection de l'environnement, c'est-à-dire qu'on agit partout où sont commis des crimes environnementaux et pour essayer de à la fois dénoncer ces crimes environnementaux et proposer des solutions. Proposer des solutions aux acteurs économiques, aux acteurs politiques, aux citoyens qui peuvent à un moment donné faire en sorte que ces crimes environnementaux ne soient plus commis. Donc ça veut dire qu'on est là pour essayer de réconcilier l'humanité et la planète. On est vraiment dans une approche humaine de l'environnement, humaine de l'écologie, pour faire en sorte que l'homme retrouve le goût de vivre en harmonie avec la nature, retrouve l'envie de protéger la planète et d'être soucieux de l'environnement et se rendre compte que beaucoup, beaucoup malheureusement de nos pratiques aujourd'hui sont destructrices de cet environnement et que les ressources naturelles qu'on utilise dans notre quotidien ne sont pas infinies, qu'on doit en prendre soin.
Alors vous avez dit c'est international, mais c'est où ? Il y a un siège, il y a des filiales, comment ça marche ?
En fait, on a un siège international qui est à Amsterdam, aux Pays-Bas.
Pourquoi là-bas ?
Historiquement, Greenpeace est né il y a 45 ans, donc en 1971, et Greenpeace est né au départ à Vancouver. En fait, Greenpeace, c'est l'alliance de militants écolos canadiens et de militants pacifistes américains qui fuyaient la guerre du Vietnam, qui fuyaient les États-Unis pour ne pas faire la guerre du Vietnam, et qui se sont retrouvés à Vancouver sur un combat commun qui était l'opposition aux essais nucléaires menés par l'armée américaine. Parce que ces essais nucléaires comportaient une dimension guerre, donc les militants pacifistes voulaient s'opposer à ça, mais comportait aussi une dimension environnementale parce que ces essais avaient des conséquences catastrophiques pour l'environnement marin notamment parce que c'était des essais menés au large de l'Alaska. Donc Greenpeace est né là-bas et assez rapidement ensuite Greenpeace est devenu très présente en Europe, peut-être parce qu'il y a une conscience environnementale, en tout cas dans les années 70, une conscience environnementale plus forte en Europe que dans d'autres régions du monde et assez rapidement le siège a été installé aux Pays-Bas. Aussi pour des raisons, je dirais, juridiques. C'est-à-dire que le droit néerlandais est l'un des plus protecteurs, notamment pour nos bateaux, parce que Greenpeace a 3 bateaux en permanence qui naviguent sur les eaux du monde. Et tous ces bateaux sont abrités sous pavillon néerlandais, ce qui nous permet de les protéger en quelque sorte de saisies, de confiscations qui pourraient être menées par des États, par des forces de police qui ne voudraient pas qu'on navigue dans telle ou telle région.
Vous êtes combien ? Ça représente combien de salariés ? Alors en France, dans le monde, combien de militants ?
Dans le monde, c'est 3000 salariés et en tout 3 millions d'adhérents. Donc un adhérent chez Greenpeace, c'est une personne qui à un moment donné donne de l'argent à Greenpeace. En donnant, on devient systématiquement adhérent, donc on peut participer à la vie associative de l'organisation et tout ça. Donc on a aujourd'hui ce réseau-là. En France, on est 90 salariés et 165 000 adhérents. Et j'insiste sur les adhérents parce que c'est ce qui fait notre indépendance. C'est-à-dire que Greenpeace est une organisation totalement indépendante financièrement. C'est-à-dire que les ressources dont nous disposons proviennent uniquement de dons de particuliers. On refuse systématiquement toute subvention publique ou toute subvention d'entreprise. C'est absolument interdit dans nos statuts, donc les financements de Greenpeace viennent uniquement de dons de particuliers.
Comment vous agissez et quels sont vos moyens ?
En fait, Greenpeace, on a une méthode éprouvée au fil du temps, c'est-à-dire que d'abord, on va documenter une situation. C'est-à-dire que dès qu'on a connaissance d'un crime environnemental ou qu'il soit, on va documenter cette situation. Documenter, ça veut dire envoyer des bateaux s'il le faut, pour prendre des images, pour faire des relevés scientifiques ou autres, donc avec des équipes qui, à un moment donné, vont faire des prélèvements, des échantillonnages pour prouver une pollution dans l'air, dans l'eau, dans le sol, par exemple.
C'est-à-dire que dans vos salariés, il y a des équipes scientifiques. scientifique.
Oui, on a même une unité scientifique, donc un laboratoire scientifique qui est abrité par l'université d'Exeter en Angleterre, qui est une unité scientifique uniquement dédiée au travail de Greenpeace. Et donc une fois qu'on a documenté cette situation, qu'on a la preuve factuelle, scientifique, je dirais qu'effectivement il y a une pollution dans une région, qu'il y a une dégradation forte de l'environnement, et bien ensuite on va essayer de mener une campagne et de monter une campagne. Mener une campagne, ça veut dire essayer d'arrêter ce désastre environnemental. Donc ça peut passer par plusieurs choses. Ça va passer par des discussions avec ceux qui peuvent intervenir. Donc ceux qui peuvent intervenir, ça peut être des acteurs politiques, des responsables politiques, membres du gouvernement ou des élus locaux, par exemple. Mais ça peut être, et de plus en plus d'ailleurs, des décideurs économiques. Parce que souvent aujourd'hui, les crimes environnementaux sont menés par des entreprises qui, à travers leurs activités de production, vont causer des dommages à l'environnement. Donc on va essayer d'aller voir, discuter, dialoguer avec ces acteurs, ceux qui peuvent freiner, arrêter cette dégradation de l'environnement. Si on y parvient, on s'arrête là. Et du coup, il n'y a même pas de phase publique de cette campagne-là. Donc il y a beaucoup de travail de Greenpeace qui est mené de manière souterraine, j'ai envie de dire, ou en tout cas non publique. Donc beaucoup de choses qui ne sont pas portées à la connaissance du grand public. En revanche, si ça ne suffit pas, si on n'est pas entendu, si on n'est pas reçu, même, ça arrive souvent, s'il y a un vrai désaccord ou un vrai blocage, eh bien on va passer à une phase publique de notre campagne. Et donc là, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir aujourd'hui de plus en plus des plateformes en ligne qui vont permettre de collecter des signatures, donc d'avoir de la mobilisation d'un certain nombre de gens qui vont nous soutenir dans ce combat-là. Et puis ça peut aller jusqu'aux actions de désobéissance civile dont Greenpeace est coutumière, donc avec des équipes qui vont aller, des militants qui vont aller bloquer une unité de production, bloquer un bateau, empêcher un bateau de décharger une cargaison polluante, voilà, des choses comme ça pour essayer de, si on n'y arrive pas par des discussions directes, essayer d'utiliser un rapport de force qui passe par la pression publique, par la pression citoyenne, par la pression des médias, par la pression politique, pour essayer d'obtenir gain de cause.
Quels sont les combats actuels que vous menez ? Quel éventail ?
Aujourd'hui, Greenpeace, en France, en tout cas, on mène quatre campagnes principales. La première, c'est sur la transition énergétique. Donc transition énergétique, pour nous, c'est sortir du nucléaire le plus rapidement possible et viser un horizon fait de 100% d'énergie renouvelable. Ça, c'est notre première campagne. La deuxième, c'est une campagne autour de l'agriculture écologique pour changer de modèle agricole en France, parce qu'on a un modèle qui nous mène dans le mur, qui appauvrit les sols, qui appauvrit nos nappes phréatiques, qui appauvrit les agriculteurs même. Donc essayer de changer de production agricole. On a une campagne sur la protection des océans qui passe à travers la fin de la surpêche, parce qu'aujourd'hui 90% des espèces commerciales sont en voie d'extinction ou menacées ou surexploitées. Donc on essaie de convaincre l'industrie de la pêche d'avoir des pratiques qui ne menacent pas les stocks de poissons et qui ne menacent pas les océans. Et puis on a une quatrième campagne sur la protection de la forêt, donc la lutte contre la déforestation dans les trois grands bassins forestiers mondiaux que sont l'Amazonie, l'Indonésie et le bassin du Congo en Afrique, pour essayer d'enrayer la déforestation, de convaincre les exploitants forestiers, les autorités locales qu'on ne peut plus déforester massivement ces espaces-là, parce que ce sont les poumons de la planète et que sans ces poumons de la planète, on se dirige vers une situation assez inquiétante.
Alors comment participer ? Alors je suppose qu'il y a plusieurs par des compétences, par du temps, par de l'argent. Comment ça fonctionne ?
Tout ça est possible. En fait, il y a beaucoup de. Donc je disais, on a 165 000 adhérents, c'est-à-dire 165 000 personnes qui donnent de l'argent à Greenpeace. Mais au-delà de ça, il y a effectivement des militants qui vont donner de leur temps, donc des militants bénévoles, où on a un groupe local qui va organiser des événements, qui va faire du travail de sensibilisation pendant la semaine, le week-end, qui va aller rencontrer, y compris des élus locaux, si on a besoin de faire passer un message à des élus locaux. Donc on a beaucoup comme ça de bénévoles, de militants qui nous aident. Et puis après, il y a beaucoup de sympathisants en ligne de plus en plus, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus mener une campagne comme celle qu'on mène sans utiliser les réseaux sociaux, sans utiliser le digital, et qu'on a de plus en plus de followers sur Twitter, de personnes qui nous suivent sur Facebook ou sur d'autres outils en ligne, et qui à un moment donné donnent un coup d'amplificateur à ces campagnes-là. Le fait qu'on soit aujourd'hui, on a mené une campagne par exemple internationale sur la préservation de l'Arctique, de l'océan Arctique, qui est une région qu'il faut absolument protéger, parce que si la banquise en Arctique fond, ça va accélérer encore le dérèglement climatique et on n'est pas en mesure aujourd'hui d'en mesurer toutes les conséquences. Et donc on a lancé il y a 4 ans maintenant une campagne Save the Arctic, et aujourd'hui il y a à travers le monde 7 millions de personnes qui ont signé, qui ont rejoint cette campagne. Donc ça veut dire que quand on va voir l'État russe ou l'État américain ou l'État canadien, par exemple, pour leur dire il faut faire quelque chose pour protéger l'Arctique. C'est pas seulement une équipe de Greenpeace qui vient dans son bureau, c'est une équipe de Greenpeace avec 7 millions de personnes qui ont signé pour sanctuariser l'Arctique.
Il y a une évolution, je sais pas combien, ça fait combien de temps que tu travailles chez Greenpeace ?
Alors moi, ça fait 4 ans que je suis arrivé chez Greenpeace et 4 ans que je trouve qu'il y a effectivement en France, hein, là je parle de la France, une criminalisation grandissante du militantisme environnemental. Je viens de la sphère droit de l'homme. Avant, j'ai travaillé pour une organisation défense de la liberté d'expression. Et je trouve qu'aujourd'hui, défendre l'environnement, y compris dans une société dite démocratique comme la France, est quelque chose de compliqué. On l'a vu pendant la COP21 où il y avait des assignations à résidence d'un certain nombre de militants. On l'a vu à chaque fois qu'il y a eu des mobilisations qui se sont durcies, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, à Sivens contre ce barrage, avec la mort de Rémi Fraisse, donc un militant qui a fini par être tué dans des affrontements. On sent aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont extrêmement compliquées. Concernant Greenpeace directement, une loi a été votée l'an dernier qui était clairement une loi anti-Greenpeace. C'était une loi pour renforcer les sanctions en cas d'intrusion dans les centrales nucléaires. Et comme Greenpeace est la seule organisation à entrer dans les centrales nucléaires, c'était clairement une loi anti-Greenpeace. Et quelque part, ça nous a fait très mal que ce soit une loi votée par sous l'impulsion d'un gouvernement qui était censé avoir une composante verte, parce que c'était encore à l'époque où il y avait des ministres écolos dans le gouvernement. Donc on a été effectivement assez déçus de ça. Donc on a des raisons de se mobiliser aujourd'hui, d'être solidaires autour de ce combat-là.
Merci Jean-François Julliard.
Merci à vous.
Un dernier message ?
Non, le dernier message, c'est encore une fois, je reviens sur ce que je disais, passez à l'action. N'attendez pas qu'on le fasse pour vous, passez à l'action. Il y a aujourd'hui d'infinies solutions, il y a une offre des possibles très très riche, donc chacun peut trouver sa forme d'engagement, sa forme de militantisme, la cause qui lui tient à cœur, mais faites quelque chose, engagez-vous.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet. Remember.